Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes le 1er février. Quel jour on est ? On est mardi. Mardi 1er février, en voiture il pleut, donc peut-être vous allez entendre un petit peu d'essuie-glace, éventuellement, ou un peu de pluie. Il fait un beau temps de merde là quand même, un beau temps d'hiver. Alors qu'hier il faisait très très beau. Et j'espère que vous allez bien, très bien même. Avant de commencer, déjà je voudrais féliciter Bertrand Soulier pour son 496 challenge. 400 ou 200 ? Non. 496 challenges. 10. Je sais plus combien c'est le challenge. Oh, super, ça commence fort. Le principe, c'était quoi ? C'était en fait au mois de janvier d'aller courir tous les jours. Alors, ça, il le fait depuis un long moment. Et de faire le nombre de kilomètres par jour par rapport au numéro du jour du mois. Je m'explique. Le 1er janvier, vous faites 1 km. Le 2 janvier, 2 km. Etc. etc., etc. Et donc, le 31 janvier, 31 km. Vous additionnez tout ça et ça fait donc, sauf erreur de ma part, le 496 km. Et donc il l'a terminé hier. Et alors je suis Bertrand Soulier ou un peu sur Instagram, enfin, et également sur certains podcasts, un peu moins maintenant, parce qu'il fait beaucoup de contenu et c'est assez long, donc j'aime bien varier un peu ce que j'écoute. Mais par contre, c'est quelqu'un que je trouve très inspirant par rapport à ce qui c'est remise en question régulière, c'est je décide d'un truc et puis au bout d'un mois, deux mois, trois mois, je me rends compte que ça marche moins bien, donc je réadapte et puis je remets tout le temps en question et enfin je me repose tout le temps des questions. Donc je trouve ça plutôt bien et donc bah voilà, donc c'est juste quelqu'un que je trouve plutôt très inspirant. Donc si vous connaissez pas Bertrand Soulier, je pense que vous connaissez parce que ça fait partie du monde de podcast. Si vous écoutez les podcasts, vous devez connaître ça. Donc c'est quelqu'un qui faisait à l'époque mon coach web. Donc tout ce qui était création de contenu, maintenant ça s'appelle je crois Ma Vie Créative. Il a lancé également un podcast qui fonctionne très bien sur qui s'appelle Kilomètre 42 sur la course à pied, où il a régulièrement des invités. Alors il y a certains épisodes j'écoute qui m'intéressent moins que d'autres, et puis certains qui sont hyper inspirants, comme je vous l'ai dit. Et au mois de décembre, justement quand j'étais en train de courir, j'écoutais un peu son bilan de 2021 sur la course avec les différents challenges, et c'est là où il expliquait ce qu'il avait fait au mois de janvier. Il avait dit, ben vous pouvez chacun faire son petit challenge, vous n'êtes pas obligé d'aller courir tous les jours, mais vous pouvez faire d'autres choses, genre des pompes. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, le principe, c'est 1er janvier, vous faites une pompe, vous dites putain, je suis fatigué, le 2 pompes, oh là là, ça va être dur le mois. Puis vous finissez le 31 avec 31 pompes. Comment vous dire, même 31 pompes, c'est quand même, c'est pas. Alors tous les jours, le fait d'en faire tous les jours, ça permet un petit peu d'aller mieux, mais c'est pas non plus Rocky et tous ses copains en termes de fluidité. Hein. Bon, ça c'était petite parenthèse. Donc bravo Bertrand, bien joué et magnifique par rapport à ça. Je suis fatigué des jambes, rien que d'y penser, d'avoir couru autant, enfin que tu aies couru autant. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce que j'avais à raconter de beau ? Ouais, juste un petit update par rapport à mon dernier cotifail, enfin cotifail, mon histoire de fuite d'eau avec l'eau qui avait coulé de partout, etc. En fait, j'ai finalement dû changer le relais électrique. Hors creuseur pleine dans le tableau électrique, en fait il avait pris un coup, donc la bobine ne fonctionnait plus, c'est à dire que manuellement on pouvait passer le ballon d'eau chaude en marche forcée. Par contre, au moment de passer en hors creuse ou en hors pleine, et bien ça ne fonctionnait, le relais ne fonctionnait pas, donc j'ai dû le changer. Parce que là vous me direz, putain c'est génial ta vie, et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de domotiser le bordel. Donc j'ai regardé un petit peu si ça existait. Alors il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, vous mettez un relais classique hors pleine sur lequel vous allez lui adjoindre un petit module type module Fibaro ou autre sur lequel qui va en fait vous permettre d'avoir toujours la main manuellement, de pouvoir passer en marche forcée s'il y a besoin, mais également de pouvoir piloter votre ballon d'eau chaude en disant par exemple bah, plutôt que de laisser chauffer toute la nuit. Alors j'ai vu plein d'exemples, hein. Je regarde un petit peu sur le web, je vais vous donner un exemple. Votre ballon d'eau chaude se met à chauffer à partir de 22h30, j'ai n'importe quoi, lorsque vous passez en heure creuse. L'heure creuse s'arrête le matin à 6h30. Il faut passer à 6h30 en heure pleine, ok. Sauf que si vous levez à 5h30, 6h, vous allez vous doucher à 6h, bah là le ballon va de nouveau se remettre en chauffe pour une demi-heure, ce qui n'a aucun intérêt puisque la chauffe de la demi-heure qu'il aura faite va se dissiper au niveau thermique dans la journée. Donc l'idée, ça pourrait être par exemple, ben voilà, tu mets le ballon en chauffe normalement à 22h30 et à 3h du matin, tu me coupes le ballon et tu as de le chauffer quoi qu'il arrive. En fait, pour ça, il faut savoir un petit peu quelle est la température. Alors, on peut lui adjoindre on peut adjoindre au ballon une sonde pour faire également une température cible par rapport au ballon. Et l'idée, c'est d'économiser un peu d'électricité et d'éviter de chauffer pour rien le ballon. Bon, ça peut être une chose, ça peut être également de dire, lorsque tu te rends compte que dans la maison, il y a beaucoup de monde par rapport au nombre de connexions Wi-Fi, j'en sais rien, ou consommation de CO2, et ben, tu considères qu'il y a du monde, donc tu vas en marche forcée. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Bon, ça, c'est le premier. Et puis, vous pouvez le piloter à distance aussi, tout simplement. Donc ça, c'est la première possibilité de domotiser votre ballon d'eau chaude. Deuxième possibilité, c'est de dégager directement, de ne pas remplacer le moduleur creuseur pleine et de mettre directement un module Fibaro, où là, bah, ça va reprendre la même chose, c'est-à-dire que vous allez dire, bah, dès que tu reçois, alors il faut que vous ayez l'information hors creuseur pleine qui remonte en domotique. C'est le cas chez moi, j'ai un truc téléinformation. Et en disant, voilà, dès que tu passes en heure pleine, dans ce cas-là, tu allumes le ballon d'eau chaude et puis après tu le coupes. Dès que tu es en heure creuse, tu allumes le ballon d'eau chaude et dès que tu arrives en heure pleine, tu le coupes. Ou également, dès que tu es 3h du matin ou dès que tu arrives à température cible, tu le coupes. Donc ça peut être la deuxième chose. La différence par rapport à la première solution, c'est que là, vous n'avez plus du tout de relais physique. C'est-à-dire que si votre réseau Z-Wave ou domotique ou quoi que ce soit, oui, bien sûr, excusez-moi, c'est une voiture qui s'est mise à freiner sur autoroute à 110 km/h sans personne devant. Donc, et en plus, c'est une Tesla. Pas bien la Tesla. C'est pas bien la Tesla. T'as un problème de frein, tu t'es fait hacker ta voiture. Et donc, je disais, si la deuxième solution, en fait, vous n'avez pas de relais manuel pour pouvoir le piloter à la main classiquement. Et une troisième solution sur laquelle j'étais plutôt fan, en fait, le grand avec Netatmo, hein, le grand a racheté Netatmo, il fait maintenant des modules connectés avec des prises, des interrupteurs, mais également des modules pour le tableau électrique, dont un module relais, donc hors creuse, hors pleine par exemple, qui va en plus remonter nativement, donc qui est déjà domotisé. Donc l'intérêt du truc, et en plus je crois que ça vous fait votre conso électrique, vous pouvez le remonter dans votre système domotique. Alors je ne savais pas trop s'il fallait un pont ou pas, parce que vu que c'est du Zigbee, j'ai pas trouvé l'information. Et surtout le truc, c'est que je n'ai absolument pas réussi à trouver le module à l'achat. C'est apparemment réservé plutôt principalement aux professionnels, de ce que j'ai pu comprendre. J'ai trouvé un site qui en vendait, mais le site a dû arrêter parce que Legrand l'a attaqué en justice en disant « vous n'avez pas le droit de revendre mes produits à moi, il n'y a que moi qui ai le droit de le vendre ». Enfin bref, un truc un peu du n'importe quoi, ce qui m'a vite découragé d'installer ça, parce que d'une part je me suis dit si le mec n'a pas envie de le vendre, bah, le vend pas, surtout pas. Si tu as envie de passer uniquement par des pros pour que les mecs fassent de la marge, bah, c'est de bonne, tant mieux pour eux. Mais c'est pas comme ça que tu vas démocratiser un système domotique grand public. Voilà, ça c'était ma réflexion. Donc résultat des courses, j'ai remis un module normal, j'ai remis juste un relais, tout ça pour ça, hors creuse, hors pleine. Et puis voilà, en plus en même temps, en rangeant mes toiles, j'ai trouvé plein de relais Fibaro que j'avais. Alors je crois qu'il y en a certains qui avaient lâché à l'époque, donc faut que je les reteste, voir un peu ce que j'en fais, mais éventuellement pourquoi pas m'occuper un petit peu plus tard de cette histoire de ballon d'eau chaude pour le piloter tout simplement, pour faire mes muses. Ça, c'est la partie suite de la fuite d'eau, sinon à part ça, je n'ai plus d'autres problèmes, tout est revenu à la normale. Et puis ici, j'ai rajouté donc un détecteur d'inondation, et en vous disant ça, je me rends compte que j'ai mis le détecteur, mais j'ai pas fait d'automatisation. Si jamais il y avait une fuite, de me le signaler autre que juste la notice, enfin le que ça apparaisse dans le tableau domotique. Ah ouais, faut que je me note ça. Bon, voilà, comme quoi ça fait du bien côté cast, ça permet un peu de poser des idées. Autre chose, petite parenthèse suivante, ouais, j'ai pas plein de choses à vous raconter aujourd'hui. J'ai commandé des trucs sur Amazon, on s'en fout. Je crois que c'est d'ailleurs les relais ou. Bref. Donc j'ai commandé des trucs sur Amazon, jusque-là rien d'affolant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que j'ai commandé ça un samedi, en me disant, bah voilà, donc livraison dans les 24 heures. Enfin, comme ça, j'aurais ça le lundi. Lundi, je suis souvent en télétravail, je pourrais faire ça tranquillement entre la pause du midi ou en fin de journée ou le matin avant d'attaquer. Certains trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais livré le dimanche. Enfin, ça m'a annoncé comme livraison le dimanche. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant parce que chez moi, donc j'habite pas en ville. Hein. C'est pas une grosse agglomération. Je suis dans un petit village de 800 habitants, un peu plus maintenant, 850. La ville, la grosse ville la plus proche, elle est à 20 bornes, 15 bornes. C'est pas une grosse ville, c'est une ville de province. Compiègne, pour pas la citer. J'étais étonné qu'ils me disent, tiens, pourquoi est-ce qu'ils viendraient me livrer le dimanche? Parce que généralement, les commandes Amazon, c'est livré soit par la poste, soit par colis, pas Colissimo, Chronopost. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre leur truc, selon les produits, bon, voilà. Mais c'est. Donc, ils ne bossent pas le dimanche, ces braves personnes. Et ben là, si, alors c'est peut-être un nouveau service, je pense que c'est pas colis privé chez eux. Ça fait plusieurs fois que je reçois une notification d'Amazon. Voilà, votre vie de livraison est à 8 arrêts de chez vous. Une sorte de décompte, il arrive là. Et puis, alors, soit il vous le remet en main propre selon la personne, soit il le met dans la boîte aux lettres. Et en fait, automatiquement, vous avez, une fois que c'est scanné, comme quoi ça a été déposé ou remis à la main, ben dans les 30 secondes qui suivent, vous avez la notification, votre produit a été livré. Et ben la même chose pour la partie dimanche. Donc en fait, ils livrent maintenant le dimanche. Donc alors c'est leur propre système, je pense. Enfin, c'est pas la poste, c'est pas un truc standard, c'est sous-traité probablement. Et donc c'est livré le dimanche. Alors c'est une très bonne chose s'il y a un truc urgent. Somme toute, j'étais un peu mal à l'aise de me dire c'est quoi l'intérêt de se faire livrer un dimanche un truc dont l'urgence est toute relative. Alors, ça peut être pratique, c'est des choses urgentes. Mais je trouve ça un peu. J'avais pas le choix, en fait, sur la commande de me dire je vais être livré non pas dimanche, mais dans 2-3 jours. Prends le temps, je m'en fous. Ce qui était le cas et ce qui l'est encore rarement, je crois, sur les produits Amazon. Je le vois de moins en moins, cette option. Donc, c'était étonnant. Donc, voilà. Amazon qui livre un truc le dimanche. Bah, pourquoi pas. D'un autre côté, en vous disant ça, je me dis d'un autre côté, livraison le dimanche, ça permet peut-être au livreur de mieux rouler qu'en semaine. Vous voyez, c'est peut-être moins le bordel pour aller livrer, etc. Et peut-être un peu plus tranquille. Bon, c'était mon petit retour d'expérience, mais ouais, c'était étonnant. Enfin, étonnant. C'est un service de plus, mais c'est un service sur lequel j'ai pas suffisamment, enfin, nécessairement besoin. Quoique, on peut se dire éventuellement. Parce que oui, on peut se dire éventuellement, bah, si je commande un truc le samedi, parce que comme ça, le dimanche, j'ai le temps de m'en occuper, de bricoler, ou si c'est un truc installé, enfin, que sais-je. Mais je ne l'ai pas reçu le dimanche matin. Enfin, j'ai reçu dans l'après-midi. Je crois qu'il devait être 16h, 15 ou 16h, enfin, je m'en fous, j'avais pas besoin, mais c'est bizarre. Et en plus, c'était remis en main propre, donc si j'avais pas été là, je sais pas comment ça fonctionne, enfin, c'est très bizarre. Voilà pour ce truc-là. Et enfin, dernier sujet, le plus gros, ma réflexion encore du moment, mais quand je dis encore, parce que c'est plusieurs fois que c'est un truc qui revient régulièrement sur le tapis, c'est l'utilisation. Alors, on est déjà le 1er février, donc autant dire que l'année 2022 est déjà bien, bien attaquée depuis un mois. Et puis en début d'année, on se fait un peu des objectifs. On essaie de planifier l'année. On se dit, on met un peu à plat l'année 2000 précédente. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Comment on aimerait s'améliorer sur certains sujets personnels, professionnels? Et puis on essaie un peu de projeter ça sur l'année. Et ce qui me manque, moi, c'est un outil, une visualisation qui me permette un peu de suivre ça. L'année dernière, j'avais tenté des objectifs que j'avais mis sur MindNode, donc sur une carte heuristique. Ouais, c'était bien, sauf que ça me permettait juste de le remplir chaque mois, mais je n'avais pas une visualisation permanente. L'idée pour moi, ce serait éventuellement d'avoir un truc, je vois l'année, je vois après les semestres ou les trimestres, ensuite je vois les mois, quitte même à descendre après sur les semaines. Mais quelque chose de visuel, complet, qui soit suffisamment grand pour que ce soit synthétique. Enfin, en vous disant ça, je suis en train de l'imaginer. Je ne sais pas comment le faire. J'arrive pas à trouver le truc, en fait. Et alors, donc, ça, c'est le format. Et après, j'arrive pas à trouver non plus le support. Le support, pourquoi? Parce que, donc, vous le savez, j'utilise mon iPad pour prendre des notes avec un stylet, avec un pencil depuis très longtemps, même avant que le pencil existe. Ça va peut-être faire maintenant une dizaine d'années que je fais, oui, 10 ans que je fais ça. Et je m'accroche avec ça. Au début, c'était un peu gadget. C'était bien, mais c'était un peu gadget. Après, par la suite, les outils se sont améliorés, le pencil est arrivé. Donc moi, je suis sur un iPad normal 2017. L'iPad Pro est sorti. Enfin bon, bref, quoi, c'est la magie. Ces outils s'améliorent de mieux en mieux. Il y a des logiciels de prise de notes de plus en plus performants sur lesquels on peut faire plein de trucs qui ne me servent à rien d'ailleurs. Vous avez à côté également maintenant notes d'iOS qui fonctionnent très bien, puisque vous pouvez prendre des notes à la volée en switchant du bas en bas à droite et vous remontez votre doigt vers en haut à gauche et ça vous fait apparaître une petite fenêtre style un post-it sur lequel vous pouvez prendre des notes directement sans ouvrir une application. Ça, c'est hyper pratique. Tout ça, c'est chouette. Alors, j'en ai un peu de partout de ce fait-là. Mais j'arrive à retrouver mes petits, donc là, il n'y a pas de souci. Et puis, plusieurs fois, je me suis dit peut-être que pour ma partie, pas prise de notes, mais ma partie poser un peu mes objectifs, ma vision de ce que j'aimerais faire cette partie un peu planification personnelle ou professionnelle d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi de la planification sur moyen et long terme. De se dire peut-être que l'outil papier, le format papier, un vrai agenda, les fameux bullet journal, pourrait être bien, pourrait être très bien. Et puis, donc c'est un truc sur lequel je me posais souvent la question. Est-ce que je me force pas à l'utiliser par coquetterie, geekerie, on va dire coquetterie. Ouais, par arrogance, c'est pas de l'arrogance. Voilà, je vais absolument utiliser l'iPad parce que c'est de l'iPad, plutôt que de me dire c'est peut-être moins pratique qu'un cahier pour certaines choses. Bon, c'est des questions qui étaient souvent en suspens, je me posais la question.
Contrôle sur votre trajet.
Et puis là, alors j'utilise un logiciel de prise de notes, Notability. J'ai vu en début d'année qu'il proposait, alors c'est un logiciel que vous achetez en one shot, et là il propose un abonnement, je crois que c'est 7 balles à l'année, 7 euros. Dans lequel dedans il proposait un planner.
Entrée dans une zone de contrôle.
2022. Donc en fait vous prenez l'abonnement et dedans vous avez plein de trucs différents. Alors vous avez des thèmes, si vous changez un petit peu l'apparence du truc, donc c'est un peu gadget. Vous avez des stickers, des autocollants, si dans vos notes, plus de notes, vous voulez rajouter des trucs un peu plus ludiques. Alors là ça va être plus, je pense, plus adressé à des étudiants, des présentations et surtout tout ce qui est journaux personnels. Ça peut être sympa aussi. Et donc également donc des matrices, des templates en fait de planification. Donc je me suis précipité dessus en me disant ça y est, j'ai enfin le meilleur des deux mondes. Donc une partie planification papier traditionnelle, type un agenda, des choses comme ça. Et en même temps, le fait que ce soit informatisé, enfin que ce soit digital, avec le pencil, avec tout ce qui va bien. De manière à ce que ce soit. Je crois qu'il va se faire flasher lui. De manière à ce que ce soit le meilleur des deux mondes. Donc j'ai installé le bousin. Alors effectivement, ça se présente comment? Ça se présente avec plein de petits onglets sur le côté. Imaginez un peu un répertoire. Tiens, pourquoi il y a un bouchon ici?
Qu'est-ce que c'est? Quitter une zone de contrôle.
Ouais. Pourquoi il y a un bouchon ici? C'est étonnant. Ils sortent tous là. Bon. Non, pourtant, il n'existe pas qu'un accident plus loin. C'est vrai, pardon. Donc, je disais, ça se présente comment? Donc, vous avez imaginé un grand agenda papier. Alors, vous avez deux versions. Une version paysage, une version portrait. Donc, j'ai pris la
attention,
version paysage.
Ouais,
c'est bon, c'est bon.
Sur le bas-côté, sur votre
oui, j'ai vu. C'est bon. Il faut que je désactive ce truc, en fait. Quand je fais je peux faire une automatisation pour que quand j'enregistre. Tu me coupes les notifications, ce serait bien ça. Ah bah voilà, petite occupation de plus. Donc qu'est-ce que je racontais? J'ai utilisé moi en version paysage, de manière à ce que ce soit un petit peu plus lisible visuellement. Donc vous avez en fait type un agenda personnel. Et sur les côtés des pages, de la page présentée, vous avez des petits onglets. Alors vous avez les onglets janvier, février, mars, avril, mai, juin. À droite, vous avez les onglets travail, objectif, alors c'est en anglais, goals, work, plein de trucs différents. Et quand vous allez pointer dessus, en fait, ce sont des raccourcis pour ouvrir les pages correspondantes. Donc, en fait, c'est un sujet, c'est que des raccourcis les uns avec les autres. Donc, je me suis dit, c'est pas con. Après, quand vous allez sur une semaine particulière, vous êtes obligé de passer dans le mois, après chercher la semaine, tout ça. Et finalement, je me suis dit, en fait, c'est une usine à gaz. Très rapidement, je me suis dit, en fait, c'est une putain d'usine à gaz. Donc, fort de ça, je viens de voir croiser un camion avec des voitures électriques dessus. Et ce sera l'objet d'un prochain podcast. C'est pas encore totalement maturé l'histoire. Je vais refaire ma parenthèse. Donc, je me suis dit, en fait, il faut peut-être que je m'adapte à l'outil. Donc, j'ai commencé à noter. J'ai pris la semaine en cours. Cette semaine, donc, vous avez dedans en fait, vos rendez-vous de la semaine, vous avez vos objectifs de la semaine, vos tâches de la semaine. Enfin, vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez le faire également le mois, le trimestre. Donc vous avez une version trimestre, une version mois. Vous pouvez écrire dessus avec votre stylet. Vous remplissez comme si vous remplissiez un cahier manuscrit, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit, finalement, c'est une très mauvaise idée. Enfin, ça m'a absolument pas convaincu ni convenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous écrivez quelque chose au stylet, certes, c'est digital, certes, mais après, vous avez une information qui n'est absolument pas traitée ou traitable. Je donne un exemple. En fait, dedans, vous avez votre agenda qui apparaît. Enfin, vous avez les agendas classiques, comme vous avez un agenda papier. J'ai trouvé complètement ça, enfin dommage, con. Je ne sais pas si c'est possible. En fait, il faudrait le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que devrait apparaître sur la partie agenda papier, mais rendez-vous synchronisé avec mon calendrier Google, Outlook ou Outlook, j'en sais rien. Enfin, ce que je veux, quoi. Ou ce que je veux. Donc, je vois à ce moment-là apparaître mes calendriers. Au niveau des tâches, ce serait bien de voir apparaître les tâches qui sont liées avec Things, par exemple. Et à côté de ça, avoir toute une partie manuscrit de papier sur lequel, enfin, prise de notes, tâches ou affaires, etc., post-it, j'en sais rien, qu'on pourrait compléter de manière avec le stylet. En gros, un mix des deux. Et j'imagine que ce serait pour moi l'outil idéal. Mais j'imagine, si ça tombe à l'usage, je dirais c'est une grosse merde. Ça ne me va pas. Enfin, c'est une grosse merde. Pas l'outil, mais ça ne correspond pas plutôt. Pas dire que c'est une grosse merde. Donc, j'en suis un peu revenu du truc. Et surtout, ça ne m'a pas du tout solutionné ma problématique de planification globale, qui était ma problématique de départ. Bref, là-dessus, je me dis, bah, finalement, fait chier. Et puis, je me suis dit, finalement, j'ai quand même pas mal d'outils qui sont déjà en place. Donc, Things, que j'utilise pour la partie tâches. Notability, pour prendre des notes. Et en fait, on peut peut-être faire différemment. Je pense que Notability, je peux peut-être aller plus loin, dessiner un cadre, enfin, faire quelque chose. Après, le côté, c'est consultation également du document. C'est-à-dire que si vous n'allez pas dans l'application, dans tel répertoire de prise de notes et dans telle note, vous n'avez pas la visu de votre planification. Si c'est quelque chose que vous devez avoir sous les yeux en permanence. Alors, ça peut être une feuille ou un truc que je fais après que j'imprime et que je mets sur le bureau chez moi. Enfin, je ne sais pas, mais après, le papier, ça m'emmerde. Donc, je ne sais pas. Si vous avez des idées, vous avez trouvé la solution, des pistes également de réflexion, des choses que vous avez tentées qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché, qui n'ont pas marché, c'est bien ce que je dis. N'hésitez pas à revenir vers moi, ça m'intéresse fortement. Alors il y a également Notion dans le workflow, on va dire. C'est vrai que le bordel et le workflow, c'est un peu parallèle, qui vient également s'ajouter. Alors Notion, j'utilise, pareil, de plus en plus pour certains trucs, pour les habitudes. Alors, c'est pas des tâches, c'est pour des habitudes, pour un suivi de certaines prises de notes en disant des trucs. Je sais que c'est à cet endroit-là, si je veux différentes informations techniques sur du bricolage, sur un projet que je veux faire, sur les crypto-monnaies, avec les minages, avec les réglages des cartes, avec. Enfin, je me suis pris 2-3 notes, des trucs que. Quelle consommation pour quel câble, par exemple, quand on fait un rig. J'ai des choses que j'avais vues sur internet que j'ai trouvé intéressantes. Tout est concentré au même endroit, une sorte de wiki en fait pour moi. Donc j'utilise ça pour ça, j'utilise pour mes sessions de cartes aussi, de karting, que j'ai enregistré dessus. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait cette année. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le kart, au bout d'un certain nombre d'heures, ça fonctionne en termes d'heures d'usage. Mais il y a certaines pièces qu'il faut réviser, changer. Et donc en fait, comme ça, au doigt mouillé, je n'ai aucune idée combien d'heures d'usage j'ai utilisé le kart l'année dernière. Mais grâce aux sessions que j'ai remplies dedans, avec le truc que. Enfin bref, je sais où j'en suis. Pareil, les dépenses du kart, tout ça. Enfin bon. Donc la partie Notion me sert pas mal pour ce genre de choses. Pour le boulot, j'ai mis en place une base de données très intéressante. Enfin, que je trouve intéressante pour moi et qui me va bien par rapport à mon nouveau job. Enfin, il y a pas mal de petits trucs. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont à chaque fois totalement, on va dire, indépendantes. J'ai une prise de notes d'un côté. J'ai Things pour les tâches de l'autre. J'ai Notion, une troisième chose. Je veux pas nécessairement lier les trois. Enfin, je veux pas que tout soit dans le même outil. C'est pas le but. Mais avoir quelque chose d'un peu plus visuel, une vision un peu plus globale de tout ça, quoi. Donc voilà, si vous avez des pistes, je suis très intéressé. Alors bien évidemment, vous avez compris, des pistes sur iPad. Si c'est pour un pad, enfin sur papier, quoi que non. Je ne vais pas te fermer. Donnez-moi vos idées si vous en avez, je suis très intéressé. Et puis alors, pour terminer avec l'iPad, puis j'en finirai là. En fait, Notability, je me rends compte, qu'il met de plus en plus de temps à s'ouvrir, d'aller dans les notes quand je suis au boulot, donc tiens, réunion suivante, on prend la suite de la réunion précédente sur tel sujet. Le temps que donc Notability, je l'ouvre, il y a un petit peu de latence, je vais dans la note en question, dans le répertoire, j'ouvre la note et là j'ai une page blanche, et ça se met bien 10, voire 20, voire 30 secondes avant que la page, le contenu de la page apparaisse. Et je pense que là c'est l'iPad 2017 qui commence à. Ou Notability qui demande plus de puissance. Parce que j'ai redémarré plusieurs fois l'iPad et ça n'a pas changé la problématique. Là aussi, on peut se dire, c'est un bon signe, il est temps de changer le matériel. Mais je vais être honnête, hein, ça me fait un peu chier de mettre le prix d'un iPad Pro, voire même un iPad Air, hein, 500, 600, 700 balles, juste pour un problème de prise de notes. Ça, alors je pourrais faire d'autres choses avec, mais je suis un peu. J'ai envie, parce que je mais évidemment, un iPad Pro, ça, c'est le kiff. Mais je me retiens depuis très longtemps, j'essaie de me raisonner. Donc je suis un peu emmerdé là avec l'entre-deux. Ça pourrait être aussi de se dire, j'arrête Notability, je bascule tout sur Note d'Apple, qui évolue très bien aussi. Mais je trouve que Note d'Apple, pour l'utiliser, j'ai pas encore la même. C'est pas encore exactement les mêmes. Enfin, les mêmes pour la prise de notes, c'est. Ouais, c'est. Il y a des trucs différents. Enfin, je sais pas. Je suis moins convaincu. C'est très bien pour prendre des notes rapides, type post-it, etc. Mais c'est pas pour une prise de notes un peu plus construite, les notes qu'on va conserver. Je suis moins fan. Bon, voilà. C'était un peu long, comme d'hab. Hein, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là si vous êtes arrivé à la fin. J'attends vos retours, Twitter, Instagram, où vous voulez. Pour la partie conseil et planification, je vous souhaite une douce et agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un épisode de Coticast. Salut !